Chapitre 5. Cependant, rien ne prenait une assiette fixe à Paris. Tout y était immobile, et il était à craindre que le triomphe des conseils sous le pouvoir exécutif ne finît par l'énerver et amener la désorganisation du gouvernement. Il était à craindre surtout que les anarchistes, outrant les conséquences de la dernière révolution, ne voulussent tout bouleverser afin de se saisir d'un pouvoir qu'ils n'étaient pas en état de gérer. Ils comptaient sur Bernadotte, qu'ils avaient porté au ministère de la guerre et dont l'ambition et le caractère n'étaient pas sympathiques avec les vues de Sieyès et de son parti. Heureusement que les intérêts du parti de Bonaparte, dirigé par ses deux frères, ayant pour conseil Roudère, Boulet de la Meurthe et Régnier, se trouvaient d'accord sous le point de vue de la nécessité d'arrêter l'essor du mouvement législatif. En offrant quelques points d'arrêt pour l'avenir, il groupa autour de son parti les anciens directeurs et leurs affidés qui redoutaient d'être mis en cause. Le danger était pressant. Le parti exagéré demandait l'acte d'accusation des ex-directeurs, mesure qui pouvait atteindre ou dévoiler toutes les malversations. Aussi vit-on naître aussitôt une forte opposition dans une partie des députés mêmes qui avaient concouru à renverser la majorité du directoire, mais seulement pour changer le système du gouvernement et s'en emparer. Ils alléguèrent en faveur des accusés qu'on pouvait se tromper en politique, adopter de faux systèmes et ne pas obtenir un succès, se laisser même aller à l'ivresse d'un grand pouvoir et en cela être plus malheureux que coupable. Ils invoquaient surtout la promesse, ou plutôt l'assurance morale, donnée et reçue, qui ne serait fait contre eux aucune poursuite s'ils en venaient à une démission volontaire. On rappelait enfin que plus d'une fois, les conseils avaient sanctionné par leurs applaudissements l'expédition d'Égypte et la déclaration de guerre contre les Suisses, objet de tant de déclamations. Ce procès d'ailleurs eut entraîné trop de révélations, ce que Barras voulait éviter. D'un autre côté, il aurait eu des conséquences nuisibles au pouvoir en lui-même, ce que Sieyès jugea impolitique. On traîna les discussions en longueur afin de fatiguer l'attention publique jusqu'à ce que d'autres incidents et la marche des événements fissent diversion. Mais comment arrêter à la fois les écarts de la presse qui commençait à dégénérer en licence et la contagion des sociétés populaires dont on avait rouvert partout les foyers malfaisants? Sieyès, à la tête de sa phalange, composée d'une quarantaine de philosophes, de métaphysiciens, de députés sans autre énergie que celle que donne l'appât des intérêts matériels, pouvait-il se flatter de terrasser l'anarchie et de régulariser un ordre social sans base? Sa coalition avec Barras était précaire. Il n'était sûr au directoire que de Roger Ducos. À l'égard de Moulin et de Goyer, ils n'avaient d'autre garantie que leur extrême bonne foi et leur vue bornée en politique. Ces hommes nuls pouvaient, en un jour de crise, devenir les instruments d'une faction entreprenante. L'ascendant que Sieyès exerçait au directoire pouvait s'émousser ou tourner contre lui par la défiance. Mais quand il vit en effet qu'il y avait moyen de s'appuyer sur Joubert, revêtu du commandement de Paris, circonvenu avec habileté et dont on allait captiver les penchants par un mariage où il se laissait doucement entraîner, Sieyès résolut d'en faire le pivot de sa coalition réformatrice. En conséquence, le commandement en chef de l'armée d'Italie lui fut dévolu dans l'espoir qu'il ramènerait la victoire sous nos drapeaux et acquerrait ainsi le complément de renommée nécessaire pour la magie de son rôle. Ceci posé, Sieyès s'aperçut que le ressort d'une police ferme et habile lui manquait. La police, telle qu'elle était organisée, penchait naturellement pour le parti populaire qui avait introduit dans son sein quelques-uns de ses coryphées et de ses meneurs. L'honnête Bourguignon, alors ministre, devait son élévation à Goyer. Il était tout à fait au-dessous d'un tel ministère, hérissé de difficultés. On le sentit. Et au moment même où je venais de rédiger pour Barras un mémoire sur la situation de l'intérieur et où je traitais en grand la question de la police générale, Barras s'unit à Sieyès pour révoquer Bourguignon, puis à Goyer et à Moulin pour écarter Alquier, candidat de Sieyès, et pour m'appeler au ministère. J'ai changé volontiers mon ambassade pour le ministère de la police, quoique le sol où j'allais camper me parut mouvant. Je me hâtai de me rendre à mon poste, et le 1er août, je fus installé. La couronne n'avait succombé en 1789 que par la nullité de la haute police, ceux qui en étaient dépositaires alors n'ayant pas su pénétrer les complots qui menaçaient la maison royale. Tout gouvernement a besoin, pour premier garant de sa sûreté, d'une police vigilante dont les chefs soient fermes et éclairés. La tâche de la haute police est immense, soit qu'elle ait à opérer dans les combinaisons d'un gouvernement représentatif incompatible avec l'arbitraire et laissant aux factieux des armes légales pour conspirer, soit qu'elle agisse au profit d'un gouvernement plus concentré, aristocratique, directorial ou despotique. La tâche est encore plus difficile, car rien ne transpire au dehors. C'est dans l'obscurité et le mystère qu'il faut alors découvrir des traces qui ne se montrent qu'à des regards investigateurs et pénétrants. Je me trouvais dans le premier cas avec la double mission d'éclairer et de dissoudre les coalitions et les oppositions légales contre le pouvoir établi, de même que les complots ténébreux des royalistes et des agents de l'étranger. Ici, le danger était bien moins immédiat. Je m'élevais par la pensée au-dessus de mes fonctions et je ne m'en épouvantais pas. En 2 heures, je fus au fait de mes attributions administratives, mais je n'eus garde de me fatiguer à considérer le ministère qui m'était confié sous le point de vue réglementaire. Dans la situation des choses, je sentis que tout le nerf, toute l'habileté d'un ministre, homme d'État, devait s'absorber dans la haute police, le reste pouvant être livré sans inconvénient à des chefs de bureau. Je ne m'étudiais donc qu'à saisir d'une main sûre tous les ressorts de la police secrète et tous les éléments qui la constituent. J'exigeais d'abord que, sous ses rapports essentiels, la police locale de Paris, appelée bureau central, la préfecture n'existait pas encore, fût entièrement subordonnée à mon ministère. Ressorts, éléments, ressources, je trouvais tout dans un délabrement et une confusion déplorables. La caisse était vide et, sans argent, point de police. J'eus bientôt de l'argent dans ma caisse et rendant le vice inhérent à toute grande ville tributaire de la sûreté de l'État. J'arrêtai d'abord autour de moi la tendance insubordonnée dans laquelle se complaisaient certains chefs de bureau appartenant aux factions actives. Mais je jugeais qu'il ne fallait ni brusquer les réformes ni hâter les améliorations de détail. Je me bornai seulement à concentrer la haute police dans mon cabinet à l'aide d'un secrétaire intime et fidèle. Je sentis que seul je devais être juge de l'état politique intérieur et qu'il ne fallait pas considérer les observateurs et agents secrets autrement que comme des indicateurs et des instruments souvent douteux. Je sentis, en un mot, que ce n'était ni avec des écritures ni avec des rapports qu'on faisait de la haute police, qu'il y avait des moyens plus efficaces. Par exemple, que le ministère lui-même devait se mettre en contact avec les hommes marquants ou influents de toutes les opinions, de toutes les doctrines, de toutes les classes supérieures de la société. Ce système m'a toujours réussi, et j'ai mieux connu la France occulte par des communications orales et confidentielles et par des conversations expansives que par le fatras d'écriture qui m'est passé sous les yeux. Aussi, rien d'essentiel à la sûreté de l'État ne m'a échappé. On en verra la preuve plus tard. Ces préliminaires arrêtés, je me rendis compte de l'état politique de l'intérieur, sorte d'examen déjà tout préparé dans mon esprit. J'avais scruté tous les vices et sondé toutes les plaies du pacte social de l'an 2 qui nous régissait, et de très bonne foi, je le regardais comme inexécutable constitutionnellement. Les 2 atteintes qui lui avaient été portées, aux 18 fructidors et aux 30 prairiales, dans un sens contraire, changeaient l'assertion en fait positif. Du régime purement constitutionnel, on était passé à la dictature de 5 hommes. Elle n'avait pas réussi. Maintenant que le pouvoir exécutif venait d'être mutilé et affaibli dans son essence, tout indiquait que du despotisme multiple nous passerions dans la tourmente populaire si une forte digue ne s'élevait à propos. Je savais d'ailleurs que l'homme devenu le plus influent, Sieyès, avait dès l'origine regardé comme absurde cet établissement politique et qu'il avait même refusé d'en prendre le timon. S'il venait de surmonter sa répugnance, c'est que le temps d'y substituer une organisation plus raisonnable lui semblait arriver. Il lui avait fallu bien s'approcher du corps de la place pour en démolir les bastions. Je m'en ouvris à Barras, qui, tout autant que moi, se défiait de la marche tortueuse de Sieyès. Mais il avait avec lui des engagements, et d'ailleurs il redoutait pour son compte les exagérations et les empiétements du Parti populaire. Ce parti le ménageait, mais seulement par des vues politiques et dans l'espoir de s'opposer à Sieyès qui se dévoilait. Barras passait aux yeux des républicains ardents pour un gouvernant usé et taré avec lequel il était impossible de préserver la chose publique. Il se trouvait pressé d'un côté par la société du manège qui, prenant le ton et l'allure des jacobins, déclamait contre les dilapidateurs et les voleurs, et de l'autre par Sieyès qui, usant d'un certain crédit, avait une arrière-pensée qu'il ne confiait pas tout entière à Barras. Nul doute que Sieyès n'eut déjà une constitution toute prête et de sa façon pour resserrer et centraliser le pouvoir selon que les événements se développeraient. Sa coalition était toute formée, il se croyait assuré de la coopération de Joubert. Une lettre de ce général me laissait entrevoir. Il nourrissait la noble espérance de revenir fort de l'ascendant de la victoire pour tout concilier. On avait entendu dire à Sieyès: on ne peut rien fonder avec des brouillons et des bavards. Il nous faut deux choses, une tête et une épée. J'espérais bien que l'épée sur laquelle il comptait ne se mettrait pas tout à fait à sa disposition. Si sa position était délicate, louvoyant avec Barras, ne pouvant s'appuyer ni sur Goyer ni sur Moulin, qui tenait à l'ordre établi, toutefois il pouvait compter sur ses collègues dans l'adhésion des mesures nécessaires pour s'opposer à de nouveaux empiétements législatifs et aux tentatives des anarchistes. Sieyès avait, dans le Conseil des Anciens, une phalange organisée. Il fallut s'assurer de la majorité numérique du Conseil des Jeunes ou des 500, où le parti ardent et passionné avait son quartier général. L'union des directoriaux et des politiques suffit pour le tenir en échec. Sûr de la majorité, le directoire résolut d'essayer ses forces. Dans cet état de choses, et comme ministre de la police, je n'eus plus qu'à manœuvrer avec dextérité et promptitude sur cette ligne d'opération. Il fallait d'abord rendre impossible toute coalition dangereuse contre la magistrature exécutive. Je pris sur moi d'arrêter la licence et le débordement des journaux et la marche audacieuse des sociétés politiques qu'on voyait renaître de leurs cendres. Telle fut la première proposition que je fis au directoire, en plein conseil, à la suite d'un rapport motivé pour lequel Barras s'était concerté avec Sieyès. J'eus carte blanche, je résolus de vaincre d'abord les clubs. Je préludais par une espèce de proclamation ou de circulaire où je déclarais que je venais de prendre l'engagement de veiller pour tous et sur tous afin de rétablir la tranquillité intérieure et de mettre un terme au massacre. Cette dernière assurance et le mot qui la terminait déplurent aux démagogues qui s'étaient flattés de me trouver complaisant. Ce fut bien pis quand, le 18 Thermidor, 5 août, 4 jours après mon installation, le directoire transmit au Conseil des Anciens, qui le renvoya au Conseil des 500, mon rapport sur les sociétés politiques. C'était mon travail ostensible. Là, prenant certains ménagements d'expression pour ne pas trop effaroucher la susceptibilité républicaine, je commençais par établir la nécessité de protéger les discussions intérieures des clubs en les contenant au dehors par toute la puissance de la République. Puis, ajoutant que les premiers pas de ces sociétés avaient été des atteintes à la Constitution, je conclus en sollicitant des mesures qui les fissent rentrer dans la ligne constitutionnelle. La sensation que fit la communication de ce rapport fut très marquée dans la salle. Deux députés, que je crois être Delbrel et Clémenceau, considérèrent ce mode de transmission de la part du Conseil des Anciens comme une initiative qui blessait la Constitution. Le député Grandmaison, après avoir donné à mon rapport les épithètes de faux et de calomnieux, dit que c'était le signal d'une réaction nouvelle contre les soutiens les plus ardents de la République. Il y eut ensuite une discussion très animée sur la question de savoir si l'on ordonnerait l'impression du rapport, discussion qui amena une vive sortie de la part de Briot et de Garot qui demandèrent l'appel nominal. Il n'eut pas lieu et l'impression ne fut point ordonnée. Ainsi, à vrai dire, la victoire ne resta dans cette première escarmouche à aucun parti. Mais j'éprouvais un désavantage. Aucune voix ne s'était élevée en ma faveur, ce qui me fit voir combien, en révolution, il y a peu de fond à faire sur des esprits froids et calculateurs, quel que soit le stimulant dont on se serve pour les amorcer. Ils vous donnent ensuite toutes sortes de bonnes raisons pour justifier leur silence, mais la seule vraie, c'est la peur de se compromettre. Le même jour, on m'attaqua avec bien plus de violence encore à la société du manège. Je ne fus ni déconcerté ni effrayé par ce début peu encourageant. Faiblir, c'eût été me perdre et trahir la fortune dans la carrière qu'elle m'ouvrait. Je résolus de manœuvrer avec adresse au milieu des passions qui s'allumaient et des intérêts qui se croisaient sans ménagement. Sieyès, voyant qu'on tergiversait au directoire, que Barras n'allait pas encore assez vite à son gré, fit fermer la salle du manège par la commission des inspecteurs de la salle des anciens qui siégeait aux Tuileries. Ce coup d'autorité fit sensation. Je crus Sieyès bien sûr de son fait, et bien fort surtout, quant à la commémoration du 10 août qui eut lieu au Champ de Mars avec pompe, il fit dans son discours d'apparat, comme président, les plus violentes sorties contre les Jacobins, déclarant que le directoire connaissait tous les ennemis qui conspiraient contre la République, qu'il les combattrait tous sans faiblesse comme sans relâche, non pas en balançant les uns par les autres, mais en les comprimant tous également. Comme si, à l'instant même, on eût voulu le punir d'avoir lancé ses foudres oratoires, on entendit, ou l'on crut entendre, au moment où les salves terminaient la cérémonie, deux ou trois balles siffler autour de Sieyès et de Barras, et puis quelques vociférations. De retour au directoire, je les suivis de près, et je les trouvai l'un et l'autre animés et très courroucés. Je dis que s'il y avait eu réellement complot, l'exécution ne pouvait en avoir été tramée que par des instigateurs militaires. Et, craignant d'être devenu moi-même suspect à Sieyès, qui n'aurait pas manqué d'exiger que je fusse sacrifié, je lui insinuai dans un billet au crayon qu'il fallait écarter le général Marbeau, commandant de Paris. Il était notoire que ce général se montrait tout à fait dévoué au parti des républicains exaltés et opposé à la politique de Sieyès. Sur la proposition de ce dernier, on prit, dans la soirée même, sans l'avis de Bernadotte, alors ministre de la guerre, et sans lui en faire part, un arrêté portant que Marbeau serait employé dans son grade à l'armée active. Le commandement de Paris fut déféré au général Lefebvre, illustre sergent, dont l'ambition se bornait à n'être que l'instrument de la majorité du directoire. La diatribe de Sieyès au Champ de Mars et les hurrahs contre les Jacobins furent considérés par une moitié du Conseil des 500 comme un appel à la contre-révolution. Les passions fermentèrent de plus en plus et le directoire lui-même se divisa et s'aigrit. Barras ne savait pas trop s'il devait se rapprocher de Goyer et de Moulin, ce qui eût isolé Sieyès. Ces incertitudes ne pouvaient m'échapper, et je sentis qu'il n'était pas temps encore de s'arrêter, et je le lui dis franchement. 3 jours après la harangue de Sieyès, je pris sur moi de faire procéder à la fermeture de la salle des Jacobins de la rue du Bac. J'avais mes vues. Un message du directoire m'annonça que la violation des formes constitutionnelles par cette société réunie l'avait déterminé à en ordonner la clôture. Ce coup hardi acheva d'irriter une faction ardente qui n'éprouvait plus que des échecs, soit dans le gouvernement, soit dans les conseils. Il fallut montrer aussi qu'on savait agir au besoin contre les royalistes qui, dans l'Ouest, recommençaient à remuer et qui venaient de faire une levée de boucliers intempestive dans la Haute-Garonne. Sur mon rapport, le directoire demanda et obtint par un message l'autorisation de faire pendant 1 mois des visites domiciliaires pour découvrir les émigrés, les embaucheurs, les égorgeurs et les brigands. Il suffit de quelques mesures militaires pour étouffer dans la Haute-Garonne cette insurrection mal conçue et mal menée. Quant au brigandage exercé de nouveau par les chouans en Bretagne et dans la Vendée, comme c'était un mal invétéré provenant d'un vaste plan, le remède n'était pas si facile dans son application. La loi des otages, qui prescrivait des mesures contre les parents d'émigrés et les nobles, au lieu de calmer les troubles à leur naissance, ne faisait que les envenimer. Cette loi, qui ne rappelait que trop le régime de la terreur, me parut odieuse et très propre à nous susciter encore plus d'ennemis. Je me contentais d'en paralyser l'exécution autant que cela pouvait dépendre de moi, et sans que ma répugnance effarouchât trop le directoire et les autorités départementales. Je voyais bien que ces troubles tenaient à une des plaies de l'État que le cabinet de Londres s'efforçait d'élargir. J'envoyais dans les départements de l'Ouest des émissaires intelligents pour me mettre au fait de l'état des choses. Puis je m'assurais d'un certain nombre d'agents royalistes qui, tombés en notre pouvoir dans les différents départements agités, avaient à craindre ou la condamnation à mort, ou la déportation, ou un emprisonnement indéfini. La plupart avaient fait offre de servir le gouvernement. Je leur fis ménager des moyens d'évasion pour qu'ils ne fussent pas suspects à leur propre parti, dont ils allèrent grossir les bandes. Ils rendirent presque tous des services utiles, et je puis dire même que par eux et par les données qu'ils me fournirent, j'arrivais plus tard à en finir avec cette guerre civile. Les plus grands obstacles sortaient de notre sein. Ils étaient suscités par la dissidence des hommes de la Révolution qui se divisaient en exploiteurs du pouvoir et en aspirants aux places. Ceux-ci, impatients, irrités, devenaient de plus en plus exigeants et hostiles. Comment se flatter de gouverner et de réformer l'État avec la licence de la presse? Elle était au comble. « Le directoire, la royauté près, disait le journal des hommes libres, a sanctionné ostensiblement le massacre des républicains par le discours de son président sur le 10 août et par son message sur la clôture des sociétés politiques. » À mon arrivée au Luxembourg, je trouvais, comme je m'y attendais, Sieyès et ses collègues exaspérés contre les journaux. Je provoquai aussitôt un message pour demander au Conseil des mesures répressives applicables aux journalistes contre-révolutionnaires et aux libellistes. On dressait le message quand arriva la première nouvelle de la perte de la bataille de Novi et de la mort de Joubert. Le directoire en fut atterré et découragé. Navré moi-même, je fis sentir pourtant qu'il ne fallait pas laisser flotter les rênes, mais il n'y eut pas moyen de rien décider ce jour-là. Dans les circonstances où nous nous trouvions, la perte de la bataille était un désastre, la mort de Joubert une calamité. Il était parti avec l'ordre formel de livrer bataille aux Russes. Malheureusement, le retard d'un mois occasionné par son mariage avec Mademoiselle de Montholon avait donné à l'ennemi le temps de se renforcer et d'opposer à notre armée des masses plus formidables. La mort de Joubert, renversée par les premiers coups de fusil, et qui avec raison a été appelée suspecte, n'a jamais été clairement expliquée. J'ai questionné des témoins oculaires de l'événement qui semblaient persuadés que la balle meurtrière était partie d'une mince cassine, maisonnette de campagne, par quelqu'un d'aposté, la mousqueterie de l'ennemi n'étant point à portée du groupe d'état-major au milieu duquel était Joubert quand il vint encourager l'avant-garde qui pliait. On a été jusqu'à dire que le coup était parti d'un chasseur corse, de nos troupes légères. Mais n'essayons pas de percer un mystère affreux par des conjectures ou par des faits trop peu éclaircis. « Je vous laisse, Joubert », avait dit en partant pour l'Égypte Bonaparte. Ajoutons que sa valeur était relevée par la simplicité de ses mœurs, par son désintéressement, et qu'on trouvait chez lui la justesse du coup d'œil unie à la rapidité d'exécution, une tête froide avec une âme ardente. Et ce guerrier venait de nous être enlevé, peut-être par la combinaison d'un crime profond, au moment où il aurait pu relever et sauver la patrie. La marche de la politique du gouvernement en fut suspendue pendant près de 15 jours. Il fallait pourtant ne pas périr. Je stimulais Barras, et bien sûr que Sieyès méditait un coup d'État dont il fallait s'emparer, ces deux directeurs réunis à Roger Ducos résolurent, sur mes excitations, de reprendre leur plan en sous-œuvre. Enfin, je pus agir. Décidé à réfréner la licence de la presse, j'en vins à un acte décisif. Je supprimai d'un seul coup 11 journaux des plus accrédités parmi les jacobins et les royalistes. Je fis saisir leur presse et arrêtai même les auteurs que j'accusais de semer la division parmi les citoyens, de l'établir à force de la supposer, de déchirer toutes les réputations, de calomnier toutes les intentions, de ranimer toutes les factions, de réchauffer toutes les haines. Par son message, le directoire se bornait à prévenir les conseils que la licence de plusieurs journalistes l'avait déterminé à les faire traduire devant les tribunaux et à mettre les scellés sur leur presse. À la lecture de mon rapport, des murmures se firent entendre. L'agitation régna dans la salle. Le député Briot déclara qu'il se préparait un coup d'État, et après m'avoir personnellement attaqué, il demanda la suppression du ministère de la police. Le lendemain, le directoire fit insérer dans le rédacteur et dans le moniteur l'éloge de mon administration. Nous avions repris nos plans. On s'était assuré de Moreau, républicain en fond de l'âme, mais détestant l'anarchie. La vérité, il était faible en politique, et nous ne trouvions pas un grand fond de sécurité dans sa coopération. Insouciant et facile à effaroucher, il fallait d'ailleurs le stimuler sans cesse. Mais le choix n'était plus à notre disposition, car parmi les généraux alors en crédit, il n'y en avait pas un seul sur qui l'on pût compter. Chaque jour, l'horizon politique devenait plus sombre. Nous venions de perdre l'Italie et nous étions menacés de perdre la Hollande et la Belgique. Une expédition anglo-russe avait débarqué le 27 août dans la Nord-Hollande. C'est dans les revers que le parti exagéré puisait de nouvelles forces. Ces conciliabules devinrent plus fréquents et plus actifs. On se donna pour chef Jourdan et Augereau, qui siégeaient au 500, et dans le conseil Bernadotte, qui tenait le portefeuille de la guerre. Près de 200 députés étaient recrutés dans le même parti. C'était la minorité, mais une minorité effrayante. Elle avait d'ailleurs pour racine au directoire les directeurs Moulin et Goyer, au moment où Barras, affectant de tenir une sorte de balance, se croyait par là même l'arbitre des affaires. S'il ne se détachait pas de Sieyès, c'était uniquement dans la crainte qu'un mouvement trop violent ne l'entraînât hors du pouvoir. J'avais soin de l'entretenir dans ses dispositions, bien moins pour me maintenir que par amour pour mon pays. Un déchirement en faveur du Parti populaire nous eût perdus alors. La proposition de déclarer la patrie en danger, émanée de Jourdan, fut le signal d'un grand effort de la part de nos adversaires. Je n'avais été averti la veille. Aussi, toute notre majorité recrutée, non sans peine, à la suite d'une réunion chez le député Fréjuil, vint à son poste décidé à tenir ferme. On déroula d'abord le tableau des dangers dont nous étions environnés. L'Italie sous le joug, les barbares du Nord aux portes de la France, la Hollande envahie, les flottes livrées par trahison, l'Helvétie ravagée, des bandes de royalistes livrant à tous les excès dans un grand nombre de départements, les républicains proscrits sous le nom de terroristes et de jacobins. Tels furent les principaux traits du tableau rembruni que fit Jourdan de notre situation politique. « Encore un revers sur nos frontières, s'écria-t-il, et le tocsin de leur royauté sonnera sur toute la surface du sol français comme celui de la liberté sonna le 14 juillet. » Après avoir conjuré le directoire du haut de la tribune législative d'éloigner les amis tièdes de la République dans une crise où l'énergie seule pouvait sauver la France, il termina par un projet tendant à déclarer la patrie en danger. L'adoption de cette proposition eut précipité le mouvement que nous voulions arrêter ou du moins régulariser. Elle excita les plus violents débats. Le parti avait le projet de l'enlever de haute lutte, mais soit de pudeur, soit de faiblesse, il consentit à renvoyer la discussion au lendemain, ce qui nous donna de la marge. J'avais informé que les patriotes les plus chauds sollicitaient vivement Bernadotte de monter à cheval et de se déclarer pour eux à la faveur d'un tumulte à la fois civil et militaire. Déjà, malgré les entraves et les empêchements de la police, l'appel était fait aux anciens et aux nouveaux jacobins, aux anciens et aux nouveaux terroristes. Barras et moi, nous nous chargeâmes de détourner Bernadotte d'un coup de main qui l'eût amené à être le Marius de la France. Ce rôle n'était ni dans son caractère ni dans ses mœurs. Sans doute l'ambition le dévorait, mais c'était une ambition utile et noble, il aimait réellement la liberté. Nous touchâmes séparément ses cordes sensibles et nous l'amollîmes. Mais il n'ignorait pas que les projets formés sous l'égide de Joubert, les propositions faites à Moreau, devaient changer la nature du gouvernement. Nous l'assurâmes que c'était des idées sans consistance, des projets éventuels mis en avant par des faiseurs de plans dont les gouvernements sont toujours assaillis dans les temps de crise, qu'il n'y avait à cet égard rien d'arrêté, qu'on respecterait la Constitution tant que nos adversaires ne voudraient pas la démolir eux-mêmes. Barras lui insinua qu'il serait convenable qu'il optât pour le commandement en chef d'une armée, attendu qu'avec son portefeuille de la guerre, il devenait la pierre d'attente d'un parti actif opposé au gouvernement. Il évita de s'expliquer sur cette insinuation et nous quitta. Sieyès et Roger Ducos redoutaient un égarement, d'autant plus que j'avais la certitude qu'il y aurait des groupes et des rassemblements autour de la salle législative et que le parti se flattait de l'emporter par un coup de main à l'aide de ses trois généraux, ses coryphées. Sieyès, en sa qualité de président, ayant mandé Bernadotte, le cajola et l'amena très adroitement à dire qu'il regarderait le commandement en chef d'une armée comme une récompense honorable de ses travaux comme ministre. Là-dessus, Sieyès se proposa d'agir à l'instant même. Déjà, le général Lefebvre avait reçu l'ordre de se concerter avec moi, de prendre les mesures militaires convenables et, au besoin, de disperser les rassemblements par la force, après toutefois s'être assuré de l'esprit des soldats. Je le vis plein de sécurité et je crus pouvoir répondre de son inflexibilité soldatesque. Mes informations secrètes, coïncidant avec d'autres communications confidentielles, Sieyès et Barras, réunis à Roger Ducos, révoquaient à Bernadotte, sans en rien dire, à Moulin ni à Goyer. Pour les calmer, il fallut leur donner l'assurance qu'ils seraient consultés sur le choix d'un nouveau ministre, choix que Goyer, soutenu par Barras, fit porter quelques jours après sur Dubois de Crancy. La discussion s'ouvrit, d'une manière assez imposante, sur la proposition de Jourdan. Deux opinions se manifestèrent. Les uns voulaient que le gouvernement conservât le caractère ministériel et secret, d'autres qu'il reçût un caractère national et public. C'était autant de masques pour cacher le véritable secret des partis. La motion de Jourdan fut combattue avec beaucoup de talent et d'adresse par Chénier, par Lucien Bonaparte et moins bien par Boulet de la Meurthe. Lucien déclara que l'unique moyen de surmonter la crise était dans une grande latitude de pouvoir laissée à l'autorité exécutive. Il crut devoir cependant combattre l'idée d'une dictature. « Est-il aucun de nous, s'écria-t-il, et ceci est remarquable, qui ne s'arma du poignard du Brutus et qui ne punit le lâche et l'ambitieux ennemi de la patrie ?» C'était faire à l'avance le procès du 18 Brumaire, journée dont Lucien assura lui-même le triomphe 2 mois après. On voit qu'il songeait moins alors à se préserver d'une contradiction qu'à écarter toute espèce de dictature. Il eut renversé l'espoir que nourrissait son frère en Égypte, auquel on avait expédié aviso sur aviso pour presser son retour. Il importait à Lucien qu'il trouvât le champ libre, bien sûr qu'on ne verrait en lui ni hésitation ni tâtonnement. En cela, supérieur à nos généraux timorés qui, redoutant la responsabilité d'un pouvoir précaire, ne voyaient aucun mode de réforme que dans une nouvelle organisation consentie par des hommes qui n'en voulaient aucune. La discussion fut très orageuse au Conseil des 500. Le bruit de la révocation de Bernadotte l'envenima. Jourdan y vit lundi certain d'un coup d'État et il demanda la permanence des conseils. Toutes ces propositions furent rejetées par 245 voix contre 171. 102 députés les plus ardents protestèrent. Les rassemblements et les groupes autour de la salle furent hideux et les vociférations menaçantes. La masse de la population parisienne s'en montrait effrayée. Mais soit impuissance, soit lassitude, soit efficacité dans les mesures militaires et dans les manœuvres de mes agents, tous les éléments de trouble et d'agitation se dissipèrent et le calme parut renaître. La victoire remportée par la magistrature exécutive fut complète. Le Conseil des 500 rejeta la résolution qui ôtait au directoire la faculté d'introduire des troupes dans le rayon constitutionnel. Mais ce n'était là que des moyens évasifs. La patrie était réellement en danger. Des factions aigries déchiraient l'État. La destitution de Bernadotte, déguisée sous l'apparence d'une démission sollicitée de sa part, fut un acte de vigueur sans doute, mais qu'on pouvait interpréter défavorablement pour le directoire. Dans une lettre rendue publique, Bernadotte répondit en ces termes à l'annonce officielle de sa retraite, « Je n'ai pas donné ma démission que l'on accepte et je rétablis ce fait pour l'honneur de la vérité qui appartient aux contemporains et à l'histoire. » Puis, annonçant qu'il avait besoin de repos, il sollicita son traitement de réforme « que je crois avoir mérité, ajouta-t-il, par 20 années de service non interrompus. »